Et le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La crainte des pillages grandit sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Les habitants ne se sentent pas en sécurité. Reportage de Jérôme Jadot. Emmanuel Macron rencontrera demain les victimes de l'ouragan Irma. Aujourd'hui, il était à Toulouse pour parler de sa réforme du logement. Il promet 50 000 places supplémentaires pérennes pour les plus précaires et une libération de la construction. Les séparatistes catalans envahissent les rues de Barcelone. Une démonstration de force à 3 semaines du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, interdit par les autorités espagnoles. Construire des fusées moins chères, c'est possible, notamment grâce à l'impression 3D. Hakim Kasmine nous en dira plus à la fin du journal. Un délégué interministériel va coordonner la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. Le Premier ministre Édouard Philippe a fait plusieurs annonces cet après-midi. Demain, un centre de soins sous tente de grande capacité sera installé au stade Marégaud. La reprise des cours devrait se faire à la rentrée des vacances de la Toussaint. Elle est pour l'instant impossible puisque la quasi-totalité des écoles sont détruites. Écoutez Édouard Philippe.
L'engagement de l'État sera total. L'urgence est de répondre aux besoins des populations. La mobilisation des services de l'État a permis le rétablissement de l'ordre public et le début d'une réorganisation des services publics. Tous ceux qui s'improvisent, experts en gestion de crise ou en logistique exceptionnelle, pour faire naître des polémiques qui me semblent aussi inutiles que contre-productives, ne rendent service ni aux populations locales, ni à ceux qui essaient de leur venir en secours et de leur permettre de revivre plus sereinement. Ce qui se joue à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ça n'est pas simplement le rétablissement de conditions normales de vie à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. C'est beaucoup plus que cela. C'est la capacité d'une nation, la France, d'être à la hauteur d'un événement qui touche chaque Français.
Être à la hauteur. Jusqu'à présent, les annonces gouvernementales n'ont pas rassuré les habitants. Beaucoup se sentent abandonnés à leur sort et sont très inquiets pour leur sécurité. Ils redoutent tout particulièrement les pillages, comme en témoigne le reportage de Jérôme Jadot, l'un de nos envoyés spéciaux à Saint-Martin.
On est en train de piller. Donc il faut arrêter ça, il faut qu'il y ait une patrouille qui tourne ici, quoi.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Ça continue à piller là-bas au fond.
Là-bas au fond, c'est dans une petite zone d'activité à 200 mètres du bâtiment où s'est installée la sécurité civile. Un pick-up est garé devant un magasin d'équipement électrique et ventré. Deux hommes chargent tranquillement une chaise, 3 lampadaires et quelques autres appareils.
Vous faites quoi ?
Pour de panader au vieux.
Chargement sous les yeux de 2 militaires en treillis qui pénètrent aussi dans le magasin. Manifestement pas pour y rétablir l'ordre.
Vous savez pas s'il y a des lampes torches ici ?
Ils sont interpellés par un chef d'entreprise voisin.
Vous n'êtes pas armés ?
Non. On n'est pas militaires armés, nous.
On n'est pas militaires armés, donc c'est bien.
Il y a pourtant un PC de la sécurité civile qui est à 200 mètres. Il n'y a pas une seule sécurité. On est vraiment dans un truc qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on est protégé par des gens qui n'ont pas d'armes. Ça m'écœure.
Benjamin Laurent a lui-même été victime de pillage. 12 heures après le passage d'Irma, la porte de son entrepôt de vin et spiritueux juste à côté a été forcée à coups de transpalettes. On lui a notamment dérobé des grands crus sous ses yeux. Il a pris des photos des malfaiteurs.
Et lui, regarde là, lui, il se prend orange mécanique. C'est-à-dire que tu l'approches, il te met un coup de club de golf dans la gueule.
À quelques mètres de là, l'homme qui se sert en tonneau dans un autre entrepôt n'a, lui, pas l'air spécialement violent. Il n'a pas le sentiment d'enfreindre la loi. Qu'est-ce que vous avez récupéré, là ?
C'est pas un vol, mais comme il y en a l'endroit où ça qui s'est cassé, on prend des choses. Mais où ça s'est pas cassé, c'est pas la peine pour aller les casser. C'est pas une bonne chose, ça.
Sinistrés qui comblent leurs besoins, opportunistes qui se servent, mais aussi vrais délinquants qui profitent de la situation. Arnaud habite juste à côté de la galerie commerciale West Indies. Elle abrite des boutiques de luxe sur le front de mer de Marégaud, la principale ville de l'île.
Le soir même du passage du cyclone, le propriétaire des lieux habite juste au-dessus de ce centre commercial et il y a eu échange de tirs avec les casseurs, les pilleurs qui sont venus. Mes enfants, ma femme ont été traumatisés parce qu'on habite à 3 mètres à côté. Il faut que les forces de l'ordre arrivent en masse pour sécuriser tout et calmer le jeu.
Des forces dont les effectifs ont été portés à 2000 hommes, selon la ministre des Outre-mer. Elle assure que la sécurité est revenue sur le territoire. Même discours du patron de la gendarmerie locale, le général Jean-Marc Descoux.
Sur chaque secteur, on a plusieurs points qui ont vocation à apporter une sécurité de proximité. Notre dispositif est très réactif et nous arrivons, si vous voulez, à apporter une réponse dans les 5 minutes actuellement à tout trouble à l'ordre public.
Selon le procureur de la République dépêché sur place, une enquête a quand même été ouverte pour des tirs essuyés par des gendarmes avant-hier soir. Et moins d'une heure après la conférence du général Descoux, à moins de 500 mètres de son PC, un bazar de quartier était à nouveau visité par des pilleurs.
Emmanuel Macron arrivera demain matin à Saint-Martin. Le chef de l'État décolle ce soir pour les Antilles, accompagné d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Ce matin, Emmanuel Macron était à Toulouse pour une visite consacrée au logement, pour remplacer les nuitées d'hôtel, solution coûteuse et insatisfaisante. Le président prévoit la création de 50 000 places pérennes supplémentaires pour les plus précaires. Le reportage de Stéphane Iglisis à Toulouse.
Selon le président de la République, le constat est simple. La France est le pays qui dépense le plus avec le Royaume-Uni en Europe pour le logement social et en même temps la précarité grandit chaque année. Il faut donc, selon Emmanuel Macron, plus accompagner les personnes en précarité et plus solliciter le secteur privé avec des conventions pour sécuriser les propriétaires. Ça s'appelle techniquement de l'intermédiation. Emmanuel Macron.
On propose ainsi sur le quinquennat 10 000 places supplémentaires en pension de famille qui permet ce vrai encadrement, ce vrai travail social et 40 000 places supplémentaires en intermédiation locative, ce qui permet d'aller chercher du logement hors parc existant en servant de plateforme qui fait le portage financier, qui prend le risque et bien de remettre dans un logement qui est beaucoup moins cher en ville.
Christophe Robert, le président de la Fondation Abbé Pierre, valide les orientations de cette future loi, mais avec une sérieuse mise en garde.
Ça, c'est bien de faire ça, le logement d'abord. Il faut le doter financièrement un peu plus, sans doute. Mais si derrière, on coupe les APL comme ça s'est passé cet été, ou qu'on limite, ou qu'on continue à fragiliser ces outils de protection sociale qui, depuis des décennies, apportent une réponse aux publics les plus fragiles, on n'aura rien gagné. Parce que d'un côté, on aura fait le logement d'abord, tant mieux. Et puis de l'autre, on aura vu des personnes basculer parce qu'ils auront été expulsés, parce que l'APL aurait diminué.
Le président de la République compte s'appuyer sur une quinzaine de territoires dès l'an prochain, dont l'agglomération toulousaine.
Le président veut aussi accroître la construction de logements neufs dans le parc social et libérer la construction de logements dans le parc libre en réduisant les exigences des normes environnementales et sociales. Lors de son passage à Toulouse, Emmanuel Macron a été interpellé au sujet d'une phrase prononcée vendredi à Athènes. À l'issue de son discours sur l'Europe, il avait promis, je cite, de ne céder ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Le mot fainéant a fait beaucoup réagir tout au long du week-end. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Aujourd'hui, à la veille de la mobilisation contre la réforme du Code du travail, Emmanuel Macron a assumé l'expression qu'il avait employée et précisé le fond de sa pensée.
Oui, ce n'est pas un dérapage, mais bien des propos totalement assumés, a déclaré ce matin Emmanuel Macron. Une manière pour le président de la République de focaliser l'attention médiatique sur un combat voulu comme manichéen entre celui qui souhaite apparaître comme le champion de la réforme, ou plutôt de la transformation dans le vocabulaire mis en avant ces dernières semaines, face à des conservateurs. Mais ce matin, le président de la République a voulu préciser qu'à travers ses propos, il interpellait toutes celles et ceux qui, 15 ans plus tôt, avaient dit qu'en Europe ou en France, on pouvait ne pas bouger, et qui, 15 ans plus tard, se réveillent avec une crise européenne et des difficultés françaises, selon les mots du chef de l'État. Avec cette nouvelle sortie, Emmanuel Macron souhaite faire peser ses attaques sur les responsables politiques et non sur l'ensemble des Français. Contrairement à ses propos du 24 août dernier à Bucarest, lorsque le chef de l'État a déclaré que les Français détestent les réformes. Depuis vendredi, la France Insoumise, le chef du groupe Nouvelle Gauche, Olivier Faure et Benoît Hamon notamment, ont accusé Emmanuel Macron de mépris et d'arrogance. Un petit coup de menton injurieux qui sonne comme un défi, selon Jean-Luc Mélenchon. Alors que selon un sondage IFOP publié aujourd'hui, plus de 57% des personnes interrogées trouvent justifié l'appel à la manifestation de demain contre la réforme du Code du travail.
C'est donc demain une journée test pour les opposants à cette réforme et plus largement pour tous ceux qui dénoncent la politique menée par le gouvernement. La CGT est à l'initiative du mouvement. Elle a été rejointe par Solidaire, par la FSU et aussi par les étudiants de l'UNEF. Au total, quelques 4000 appels à la grève. Plusieurs préavis ont été déposés dans le secteur de l'énergie, de la santé et des transports. Lucas Waldener, la colère monte chez les cheminots, inquiète des réformes prévue à la SNCF.
Oui, et d'abord celle des régimes spéciaux. C'est une promesse d'Emmanuel Macron, mettre fin à ce système dès l'an prochain. Un système qui permet aux agents de toucher une pension dès l'âge de 57 ans, 52 hein, pour les conducteurs de train. En échange, eh bien, le président de la République propose que l'État reprenne la dette de la SNCF. Une dette abyssale de près de 45 milliards d'euros pour SNCF Réseau. Voilà un chantage inacceptable selon les syndicats qui rappellent que cette dette n'est pas celle des cheminots, mais bien celle de l'État. Sur cette réforme, en tant que telle, rien ne va, déplorent les syndicats. Sur la forme, d'abord, la CGT dénonce un contre-feu allumé par Emmanuel Macron pour détourner les cheminots des sujets d'actualité, à savoir la mobilisation de demain contre la réforme du Code du travail. Et puis sur le fond, cette fin des régimes spéciaux ne serait qu'un chiffon rouge agité pour stigmatiser les cheminots. Selon Sudrail, il est impossible de partir à 52 ou 57 ans avec une retraite à taux plein. Autre dossier brûlant, la mise en concurrence annoncée de la SNCF. Et cette question, quel avenir pour le personnel en cas de changement de compagnie ? Eh bien là-dessus, les cheminots n'ont pas l'intention de se se laisser faire. Fin des régimes spéciaux, fin du monopole de la SNCF, deux réformes qui doivent être intégrées dans une future loi d'orientation sur les mobilités d'ici le printemps prochain. Mais les cheminots, eux, ne veulent pas attendre jusque-là pour montrer les muscles et espèrent mettre la pression sur le gouvernement dès demain.
Des perturbations demain donc à la SNCF. Une deuxième journée d'action est prévue le 21 septembre, veille de la présentation des ordonnances au Conseil des ministres. Comme annoncé pendant la campagne électorale, le taux du CICE sera abaissé d'un point l'année prochaine. Il passera à 6% de la masse salariale. En 2019, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sera transformé en baisse directe de cotisation pour les employeurs. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé la présentation en 2018 d'un nouveau projet de loi destiné à favoriser les entreprises en France et notamment les PME. À une exception près, aucune trace de l'insecticide fipronil n'a été retrouvée dans les œufs produits en France. L'exception concerne un éleveur du Pas-de-Calais qui s'était spontanément manifesté fin juillet quand avait éclaté le scandale des œufs contaminés. Pour le reste, tous les cas de contamination en France étaient des produits d'importation qui venaient soit de Belgique, soit des Pays-Bas, indique le ministère de l'Agriculture. Les séparatistes catalans défilent ce soir dans les rues de Barcelone. La fête de la Catalogne est pour eux l'occasion de montrer à Madrid qu'ils sont bien déterminés à organiser leur référendum sur l'indépendance de la région et surtout qu'ils bénéficient d'un large soutien populaire. On retrouve Marie-Hélène Ballestero à Barcelone.
Ça y est, pour la sixième année consécutive, les indépendantistes catalans ont envahi les rues du centre de Barcelone. Pour cette édition 2017, ils ont décidé de changer de stratégie. Il n'y aura pas d'autre rassemblement indépendantiste dans le reste de la Catalogne. Tout a lieu exclusivement à Barcelone. Ce qui veut dire que tous les yeux sont rivés en ce moment sur la capitale catalane. L'objectif étant de créer une mobilisation impressionnante, une énième démonstration de force des indépendantistes catalans, à moins de 3 semaines du référendum d'autodétermination que prétend organiser le gouvernement catalan. Raúl Romeva est le ministre des affaires étrangères de ce gouvernement régional. Il revient sur l'importance et les raisons de la mobilisation citoyenne aujourd'hui dans les rues de Barcelone.
La rue est du côté de la démocratie, comme il l'a toujours été. Une rue pacifique, une rue qui s'est mobilisée pacifiquement depuis 2010 et notamment depuis 2012. La rue est à côté du référendum dans le sens que ça veut dire démocratie. Certains vont voter oui, certains vont voter non, certains ne le savent pas encore. En fait, tous les sondages montrent que la grande majorité de la population catalane demande de voter.
Le droit du peuple catalan à décider de son avenir, c'est ce que réclament les indépendantistes catalans depuis de nombreuses années. Un rêve qu'ils semblent désormais toucher du doigt puisque le 1er octobre, ils comptent participer coûte que coûte au référendum d'autodétermination. De son côté, le chef du gouvernement central, Mariano Rajoy, a annoncé jeudi dernier qu'il fera tout le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de référendum et ainsi préserver l'unité nationale.
Il y avait des dizaines de milliers de personnes dès le début du rassemblement à Barcelone et les vues aériennes montrent des avenues débordant de manifestants. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter ce soir de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Le projet a été préparé par les États-Unis qui prévoyaient un embargo pétrolier, une suspension des exportations de textiles nord-coréens, un gel des avoirs et une interdiction de voyager du dirigeant Kim Jong-un. Mais le texte initial a été quelque peu atténué pour obtenir le vote des Russes et des Chinois mal à l'aise sur ce dossier. Cet embarras chinois, Dominique André l'a constaté quand elle s'est rendue à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord.
Le pont de Dandong dans le nord-est de la Chine enjambe le fleuve Yalu qui sépare la République populaire de Chine et la Corée du Nord. 70% du commerce entre les deux pays passe par ce point névralgique. Ces derniers mois, Pékin a promis de respecter les résolutions de l'ONU, mais entre les entorses aux sanctions et le commerce illégal, les camions circulent et la Corée du Nord continue de s'armer, a vu ce camionneur chinois.
C'est un pays très pauvre, l'économie est très en retard. Il y a un écart de plusieurs dizaines d'années avec la Chine. Mais leur défense nationale, ça va, ils investissent beaucoup dans le militaire et la défense.
Soucieux de protéger la Corée du Nord pour contenir l'influence américaine dans la région, mais en même temps opposé au nucléaire nord-coréen, les dirigeants chinois se montrent hésitants, explique ce spécialiste de la Corée, Chang Xiaohe.
Beaucoup de gens doutent depuis des années de la position de la Chine vis-à-vis de la Corée du Nord. On voit que la
la Chine n'a pas obtenu les résultats prévus. Le but initial de la Chine, c'était qu'il n'y ait pas de guerre, pas de bouleversement, pas d'armes nucléaires. Ce dernier but n'est pas réalisé. Et cette situation troublée s'aggrave de plus en plus. Maintenant, c'est le moment où l'État chinois doit prendre une décision stratégique importante.
Les enjeux internationaux dans la zone n'échappent pas aux habitants de la ville frontière. C'est même un grand sujet de discussion à table, confirme cet enseignant.
C'est un enjeu politique entre les différents pays. On en discute entre nous après le travail. C'est possible que le danger existe, mais je ne pense pas que les Nord-Coréens oseront menacer la Chine avec leurs essais nucléaires. Pour moi, les États-Unis ont une responsabilité dans cette affaire. Imaginons si les États-Unis étaient moins sévères. Je pense que les essais nucléaires, c'est une façon de se protéger pour un petit pays comme la Corée du Nord. Parfois, j'ai même de la pitié pour eux.
Xi Jinping détesterait Kim Jong-un, dit-on en Chine, mais ce qu'il craint encore plus, c'est un bouleversement dans la zone. Le leader nord-coréen l'a bien compris. Sur la frontière, les locaux patientent donc en surveillant un peu plus les retombées des essais nucléaires.
Notre correspondante en Chine, Dominique André. L'ONU estime désormais que plus de 300 000 musulmans rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh depuis le 25 août. Et les Nations Unies dénoncent un exemple classique de nettoyage ethnique. Le Dalai Lama s'est également exprimé aujourd'hui. Il appelle la dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi, à trouver une solution pour cette population apatride. Comment les grands industriels de l'aérospatial tentent-ils de limiter leurs coûts? C'est la question que nous abordons maintenant avec vous, Hakim Kasmi. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Alors que le salon Euroconsult dédié au spatial se tient à Paris cette semaine, vous vous êtes intéressé à cette concurrence de plus en plus intense. Car si des lanceurs comme Ariane restent leaders, l'américain SpaceX a développé une fusée réutilisable, la Falcon 9. Et la Chine et l'Inde développent elles aussi leurs propres lanceurs. Alors pour ne pas perdre leur part de marché, la France et l'Europe organisent la Riposte et elle développe la fusée Ariane 6 dont le premier lancement est prévu le 16 juillet 2020, Hakim.
Oui, nous sommes sur le site des Mureaux en région parisienne. C'est ici qu'est fabriqué l'étage principal de la fusée Ariane 5, un tronçon de 30 mètres de haut qui est monté pour l'instant à la verticale. Mais pour réduire les coûts de 40% de sa grande sœur, Ariane 6, désormais, bien, le tronçon principal de la fusée sera fabriqué à l'horizontale, toujours sur le site de Mureaux, sur un site qui est en fabrication ici au Mureaux. Comme Mathieu Chaise, responsable des relations avec les clients pour le groupe Ariane.
Aujourd'hui, avec un bâtiment qui est horizontal, on va pouvoir avoir comme une, ce qu'on appelle une moving line, hein, des étages qui assemblent et qui sont construits en même temps à différentes étapes de fabrication, des postes qui s'enchaînent et une utilisation complètement optimale de l'espace. Par exemple, on va avoir un bâtiment qui va être plus bas, puisqu'il va faire simplement 20 mètres de haut, ne serait-ce qu'en coût d'électricité pour l'aération du bâtiment, son éclairage, ainsi de suite, ça va être moins cher.
Une réduction des coûts qui passera également par l'usine 4.0, l'usine du futur, grâce notamment à la réalité virtuelle. Elle permet déjà aux opérateurs et aux ingénieurs de se projeter dans cette future usine, et ce qui permettra aussi d'éviter de futures erreurs de fabrication, comme l'explique Cédric Liom, chef de projet chez Ariane 6.
Là, l'usine, elle est en cours de construction. Pour autant, on y travaille déjà dedans, complètement, grâce à cet outil de réalité virtuelle où, en fait, on a recréé, grâce à l'informatique, toute l'usine dessinée. Et dedans, on est capable de réaliser les opérations telles qu'on imagine qu'elles se feront dans plus d'un an.
On l'entend, Hakim, l'innovation technologique devient incontournable pour réduire les coûts. Et le groupe français Thales, l'un des leaders mondiaux des satellites, vient d'inaugurer une usine d'impression 3D au Maroc.
Oui, basée sur le pôle aéronautique de Midpark, à Noisseur, dans la banlieue de Casablanca. Cette usine produira des pièces pour l'ensemble du groupe Thales, dans le monde entier jusqu'en Australie. Grâce à cette imprimante 3D, qui marchera notamment avec de la poudre de carbone, on pourra fabriquer des éléments pour le satellite plus légers, ce qui est loin d'être négligeable, comme nous l'explique Jean-Claude Derbès, le directeur de l'usine.
Dans les anciennes techniques de fabrication, on était obligé de garder le volume sur toute la longueur. Là, on va pouvoir alléger et ne mettre que la quantité de métal dont on a besoin à tous les endroits où on veut passer les efforts. On va réduire drastiquement la masse des pièces. Alors bien sûr, le monde spatial est extrêmement intéressé. À 10 000 euros le kilo en orbite, c'est extrêmement intéressant de gagner des grammes ou des dizaines de grammes. Sur les satellites, aujourd'hui, il y a des pièces qui ont été fabriquées en 3D et qui volent sur des satellites fabriqués par Thales, qui sont aujourd'hui en orbite. Et ça permet d'embarquer d'autres fonctions dans le satellite, puisqu'on a gagné de la masse avec ces pièces qui ont été allégées.
Mais le choix du Maroc permet également à Thales de bénéficier d'avantages fiscaux, car le site est basé sur une zone franche. Hamid Ben Brahim, le président du pôle aéronautique Midpark.
C'est une zone offshore, c'est-à-dire que l'IS est très très léger,
8,75 par an pendant 30 ans. La TVA, il n'y a pas de TVA. Les formalités sont très allégées. Ceci donne une extraordinaire flexibilité pour les entreprises qui sont installées pour travailler.
À terme, sur cette plateforme, eh bien, il y aura plus d'une centaine de personnes qui travailleront pour Thales au Maroc.
Des fusées imprimées en 3D, ça fait rêver. Merci Hakim Kasmi. La météo, la pluie sera encore au rendez-vous demain dans la plupart des régions. De belles éclaircies tout de même de la Méditerranée au sud de Rhône-Alpes. Les températures atteindront l'après-midi 17 à 28 degrés du nord au sud.